Bonjour Père et bienvenue sur Radio Maria France.
Eh bien merci. Merci à vous et je salue bien tous les auditeurs qui me font l'honneur d'être fidèles depuis notre première intervention. Alors oui, j'ai souhaité parler aujourd'hui de l'Église apostolique puisque c'est pas forcément dans la liste canonique la première, mais vous allez voir que c'est quand même une des notes de l'Église les plus importantes. Alors, on pourrait mettre en fait pas mal de choses sur ce sujet. Je ne vais pas traiter aujourd'hui de la hiérarchie de l'Église, je ne vais pas discuter non plus de la manière dont elle transmet la grâce. Et mon sujet, c'est plutôt de dire, voilà, pourquoi finalement est-il si important pour nous d'être attachés historiquement à Jésus par une chaîne ininterrompue de témoins qui se sont succédés depuis. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une invention de chaque époque et il faudra accepter que ça se fasse dans la discontinuité. Donc là, il s'agit de sonder ce qu'on appelle souvent la tradition, c'est-à-dire cette transmission fidèle depuis le début. Alors, pour comprendre, d'abord, comme toujours, jetons un coup d'œil à l'Ancien Testament qui a fait le soubassement de ce que nous voyons. Et là aussi, il y a une forme de tradition, ce que l'on transmet à travers les livres historiques de la Bible, par exemple, le Pentateuque, le livre de la Loi, c'est le souvenir des choses anciennes, c'est le souvenir de l'origine du monde, mais surtout de cette aventure d'Abraham et de ses plus proches qui se continue de diverses façons avec Moïse, David, etc. Donc en fait, on se rattache à une hérédité en quelque sorte. Il y a quelque chose derrière nous qui conditionne ce que nous sommes aujourd'hui et il est important d'être en continuité avec cela. Vous savez que les judaïsme est une religion de la mémoire, c'est-à-dire dans lequel on relie par exemple le récit de l'Exode et le jour de Pâques et on revit en quelque sorte ce qui a été vécu. Aujourd'hui, il y a une manière d'aborder l'Écriture sainte qui, certains succès que je crois très fécondes, s'appelle la lecture canonique, c'est-à-dire qu'on montre comment au fond les textes que nous avons n'ont jamais vraiment existé comme nous les lisons que quand ils ont été repris dans un ensemble plus large, auquel ils apportaient parfois une touche nouvelle, mais aussi qui s'éclairaient par ce qu'il y avait déjà dans le canon des Écritures avant qu'ils y soient inscrits. Donc en fait, c'est un processus par lequel on va se former, par lequel il y a un ensemble de témoignages convergents mais différents et en fait ce qui éclaire les plus récents c'est la référence avec ce qu'il y avait avant qui n'est pas forcément une répétition, on ne redit pas exactement la même chose mais on le dit en continuité, en cohérence avec. Alors évidemment l'Ancien Testament présente un trait qui est quand même assez nettement évolutif, puisque on voit que certaines choses, il y a un point de vue, puis il y a un autre ensuite qui a l'air assez différent. Les premiers textes de l'Ancien Testament, on n'a pas l'air de croire beaucoup qu'il y a une vie après la mort. Quand les morts ne louent point le Seigneur, enfin, quand c'est fini, c'est bien fini. Et plus on avance vers la fin de l'Ancien Testament, plus on voit paraître la croyance, l'espérance d'une vie future et d'une vie future qui sera même concrète, puisque ça sera une résurrection. Alors, ça c'était pour l'Ancien Testament. Alors Jésus, évidemment, comme toujours, s'inscrit dans cette continuité de l'Ancien Testament, puisqu'il n'arrête pas de citer les Écritures, il n'arrête pas de se référer aux modèles qui lui sont fournis par la Sainte Écriture, et lui aussi va se situer par rapport à quelque chose qui l'a précédé. Mais surtout, c'est ça qui pour nous est très important, il se situe surtout par rapport à son Père. Il se situe comme envoyé du Père, témoin fidèle de ce qu'est le Père. Dans ce terme d'apôtre, qui pour nous est réservé à des hommes, qui ont été autour du Christ, eh bien, en fait, l'Écriture n'hésite pas à l'employer à propos de Jésus lui-même. Il est l'apôtre. C'est l'Épître aux Hébreux 3:6. Et puis, Saint Jean se plaît à souligner que la guérison de l'aveugle né, chapitre 8 de cet évangile de Saint Jean, le lieu où ça se passe, c'est Siloé, c'est-à-dire participe du verbe qui veut dire « envoyé en mission ». Donc Jésus est l'envoyé du Père. Et il nous dit « le Père a envoyé son Fils dans le monde », Jean 3:16, « de même que je suis envoyé par le Père qui est vivant, moi aussi je vis par le Père », ça se trouve au chapitre 6 dans le discours c'est du pain de vie, « mes œuvres témoignent que le Père m'a envoyé », 5:36, « je ne suis pas venu de moi-même, il m'envoie vraiment celui qui m'a envoyé », 7:28, donc il y a la conscience chez Jésus de parler au nom d'un autre, d'être le fidèle écho de la parole du Père. Et jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est lui-même qui est cette parole du Père, comme le dira saint Jean, en lui appliquant le terme de logos, le verbe. Alors, Jésus déclare souvent qu'il ne dit rien de lui-même. Il transmet une connaissance qu'il a reçue de son Père. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, 7:16. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même prescrit ce que je devais dire et les fausses interprétations qu'on pouvait en tirer. Et surtout cette phrase impressionnante, « Ma parole n'est pas mienne, c'est la parole de celui qui m'a envoyé, 14:24. » Donc très souvent, Jésus a l'air de se... s'abaisser jusqu'au point de considérer que ce qu'il dit, c'est rien et que c'est le Père qui est intéressant dans ce qu'il dit et qu'il s'efface totalement pour le laisser passer. Ce n'est pas dit aussi explicitement que ça, mais enfin, on n'en est pas loin dans Saint Jean. Alors, on est aussi bien dans l'évangile de Saint Jean que dans l'Apocalypse, on voit que Jésus revendique la qualité de témoin, témoin fidèle. Il est celui qui porte témoignage à qui ? À son Père, évidemment. Alors, il faut remarquer que Jésus, en faisant cela, en prenant directement sa référence au Père, ne prolonge pas, en quelque sorte, la tradition rabbinique qui existait à son époque, qui était celle, l'enseignement des rabbins, qui citait déjà une source avant eux, et souvent il s'appuyait sur un autre rabbin qui avait dit quelque chose avant eux, qui lui-même, enfin il y avait comme une chaîne de transmission dans laquelle chacun s'appuyait sur son prédécesseur, mais Jésus ne s'inscrit pas dans cette chaîne. Visiblement, il a un fil direct avec le ciel, avec son Père, et il n'a pas de maître connu. On ne peut pas dire, comme beaucoup de rabbins, moi je vous dis ce que je vous dis parce que Rabbi Intel l'avait déjà dit. Il dit, mais je vous dis, ma parole n'est pas de moi, elle est de mon Père. C'est le Père qui est la source, une source qui évidemment passe tout le monde. Alors, il y a aussi un fait qui est très nettement distinct, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, évolutif, il y a des choses qui apparaissent, qui existent. Il y en a d'autres qui sont pensées et puis qui sont presque abandonnées, comme la vision ancienne sur la mort qui sera définitive, la vie définitive. On voit bien que ça a des traditions. Tandis qu'avec Jésus, on touche du définitif. Sa parole n'est pas simplement un point sur une courbe qui irait plus loin que lui, elle est vraiment le dernier mot de ce que Dieu a à dire. Et nous savons qu'en lui, Dieu rejoint notre histoire et qu'il nous apporte un élément définitif. Donc, c'est pour ça que, après le Christ, vous allez voir, il y a un progrès proprement parlé, puisque en lui, potentiellement, tout est dit. Alors, bien sûr, il faudra détailler, il faudra Mais enfin, nous touchons quelque chose de définitif. C'est très important. Le Nouveau Testament nous fait assister à ce moment où la vérité de Dieu s'étant tout entière incarnée dans le Christ, eh bien, elle atteint un caractère définitif qui va marquer la suite, qui va faire qu'on dira pas mieux que Jésus, on fera pas mieux que Jésus, il s'agira seulement de comprendre Jésus. Alors évidemment, il y a un tournant, parce que si Jésus, en quelque sorte, a tout dit, il a tout résumé dans sa personne, pas seulement dans ses paroles, dans ses gestes, même dans ses silences sur la croix, s'il a tout révélé de ce qu'était Dieu et de notre vocation, malgré tout, c'est un tout compact qui va devoir être en quelque sorte déplié, explicité, et c'est tout ce qui va se passer dans la suite. Jésus a incontestablement prévu de confier cette tâche à des hommes, qui seront des hommes, mais qui ont été malgré tout un peu formés par lui dans le temps où il était sur terre, et surtout qui reçoivent l'Esprit Saint. Et donc, c'est le rôle des apôtres. Le nom que Jésus leur donne, c'est déjà révélateur, ça vient du verbe envoyer, alors chalar en hébreu et apostolein en grec, c'est-à-dire. Dans le judaïsme déjà, enfin, même un peu partout, il y avait l'idée que les grands personnages envoyaient comme ça des gens porteurs d'un courrier ou d'une mission ou d'un message, et qu'ils étaient en quelque sorte pas seulement des porte-paroles, mais ils étaient représentants de celui qui les envoyait, comme un ambassadeur en quelque sorte. Très vite, Jésus signale à ceux qui sont autour de lui qu'ils deviendront aussi des pêcheurs d'hommes, comme il dit à propos de après la pêche miraculeuse, Matthieu 4, 18. Et puis, quand il les envoie en mission, eh bien, il les assure d'une assistance très particulière qui fera que leur parole sera vraiment celle du Maître. Qui vous écoute, m'écoute. Nous trouvons ça en Luc 10, 1. Et celui qui vous reçoit me reçoit. Matthieu 10, 40. Donc vous voyez, c'est plus que simplement des gens qui transmettraient vaguement un message. Là, c'est vraiment ils s'impliquent dans ce qu'ils disent, et l'accueil qu'on leur fait, c'est l'accueil qu'on fait à Jésus lui-même, finalement qu'on fait à Dieu lui-même. Donc, Jésus a choisi 12 hommes. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur ce chiffre de 12, mais enfin, il est évident qu'il représente les 12 tribus d'Israël qui, en quelque sorte, vont revivre à travers le groupe apostolique. Ça, on en a un peu parlé la fois dernière. Mais il y a autour un cercle plus large, ce qu'on appelle les disciples, les 72, prolonge le groupe des 12, et sans doute y a-t-il encore un groupe plus vaste, puisque saint Paul nous dit qu'après la résurrection, Jésus est apparu à plusieurs centaines de frères à la fois, donc il y avait encore un cercle plus étendu. Alors, il me semble que la meilleure explication de ce que Jésus a voulu faire, nous la trouvons dans la prière sacerdotale de Jean 17, quand il dit à son père « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils ont vraiment admis que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc, c'est cette confiance que Jésus peut leur faire qu'ils ont compris. Ils ont compris quoi ? Essentiellement, le lien qui unit Jésus à son Père. Et donc, à leur tour, ils vont pouvoir reproduire, en quelque sorte, et continuer ce que Jésus a fait. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la même mission qui continue. C'est cette mission que saint Jean, dans sa première lettre, dans les premiers versets de sa première lettre, appelle une communion. Le Père et le Fils est en communion avec son Père, les disciples et les apôtres sont en communion avec le Christ, et tous les croyants qui vont les écouter, ils sont en communion avec les apôtres. Donc il y a une chaîne qui va dans les deux sens, hein, dans le sens de la manifestation, donc, de la parole qui vient de Dieu et qui se transmet par le Christ et les apôtres, et une remontée qui est la prière, la confiance, la foi qui se manifeste en réponse à cette parole. Donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ce message c'est impressionnant, puisque c'est un appel à aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc, ils ont à conquérir le monde entier. Donc l'Église, elle est fondée sur ça, elle est fondée sur cet appel que Jésus a adressé aux hommes, relayé par les apôtres, et on va voir bientôt par les successeurs des apôtres, jusqu'à la fin du monde. Donc l'Église, elle est apostolique en ce sens qu'elle repose sur ce fait que un jour, Dieu s'est manifesté en Jésus, et Jésus lui-même s'appuyait sur le Père. Ensuite, eh bien, de proche en proche, la lumière est passée, le flambeau a été transmis, et qu'aujourd'hui encore, nous sommes les bénéficiaires de ça. Nous ne sommes pas 2000 ans après Jésus-Christ, nous ne sommes pas simplement des lointains continuateurs du Christ, nous sommes en présence, on peut dire, de l'événement initial. Nous sommes en présence de ce surgissement. La parole de Dieu en Jésus, le Verbe s'est fait chair, eh bien, tous les intermédiaires, si on veut, qui se sont levés au cours de l'histoire pour transmettre ça, en fait, ne font pas nombre, ne s'ajoutent pas au Christ, comme si vous ou moi, nous transmettions un message par quelqu'un, qu'il confiera à quelqu'un, c'est bien qu'à la fin, il serait méconnaissable et on ne saurait même plus ce qu'il y avait au départ. Tandis que là, grâce au Saint-Esprit, eh bien, il y a cette merveilleuse continuité, cohérence, qui fait qu'aujourd'hui, retentit à nos oreilles la parole des apôtres, qui est la parole de Jésus. Donc, ce fait de cette transmission sans déperdition, ah ben c'est ça le miracle de l'histoire de l'Église, c'est le miracle qui fait que nous sommes réunis, non pas 2000 ans après Jésus, après avoir connu des tas de sociétés, de cultures, et que ça sera une énième fois où on rejouerait la même pièce. En fait, nous sommes en fait contemporains même de l'événement, puisque cette parole garde toute son actualité, et qu'en plus elle est, comme je disais tout à l'heure, définitive. Ce n'est pas sur une montée évolutive comme l'était l'Ancien Testament. Et donc les apôtres, 12, ceux que Jésus a mis à part, sont évidemment les plus qualifiés pour faire ça, puisqu'ils ont vécu près de Jésus, ils l'ont connu, et il leur a les instruit en particulier, donc ils sont les mieux placés, mais on sent bien que cette transmission ne se limite pas à eux, c'est pour ça qu'il y a tout le groupe, les autres groupes, même le groupe des femmes, qui constitue un rouage de cette transmission. Mais tout ça autour des apôtres. Donc de là est né, eh bien, ce que fait l'Église, qu'il a toujours fait, c'est-à-dire d'annoncer le Christ, quelquefois le kérigme, la première annonce, un peu abrupte, on dit, voilà, Dieu vous aime, Dieu vous a créé, il vous a envoyé un sauveur, il est mort, ressuscité, et maintenant il est adressé à droite du Père. Ça, c'est la forme la plus concise du kérigme, mais dans l'évangélisation, pas seulement de proclamer quelque chose, il faut parler, parfois discuter, échanger, expliquer. Ben voilà, c'est toujours cette même parole qui arrive à destination à travers l'évangile, comme dit saint Paul, c'est-à-dire pas seulement youpi, c'est beau, Dieu a gagné, mais d'étudier la vie de Jésus, de savoir comprendre la cohérence de ce qu'il a fait et l'expliquer aux autres. Donc il s'agit d'un enseignement, mais il ne s'agit même pas seulement d'un enseignement, il s'agit aussi d'une vie. Les apôtres ont pour mission de secréter des communautés chrétiennes, de faire exister ensemble des croyants qui ont une vie commune, au moins à certains moments, et qui, en tout cas, se retrouvent pour la prière. Et la transmission inclut donc non seulement les vérités de foi, quoi, le fait que le Christ est mort, ressuscité, qu'il y a une trinité, tout ça, mais aussi évidemment la morale, c'est-à-dire la manière dont Dieu attend que nous nous conduisions, y compris donc la liturgie et tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez vaste, cette transmission. Tous les éléments ne sont pas tout à fait sur le même pied, mais chacun a son importance quand même, et c'est tout ça qui constitue le dépôt, une formule qu'on trouve dans saint Paul, le dépôt confié à l'Église, et qu'elle transmet toute fidélité à travers les générations. Donc on sait que ça, c'est au début, ça a dû être beaucoup une tradition orale, des paroles, pour le moment, il y avait, comme beaucoup, dans beaucoup de ces pays, il y avait des techniques de mémorisation qui, par exemple, jouaient sur des nombres. On racontait 12 miracles de Jésus, on avait 9 béatitudes, on tissait des colliers qui permettaient de retransmettre ça avant même que l'écrit n'intervienne. Mais l'écrit n'a pas été une déformation non plus, puisqu'il a pris tous les éléments qui étaient dans cette tradition orale et il a mis ce noir sur blanc. Mais, encore une fois, la révélation, ça ne se limite donc pas à l'écriture, enfin le Nouveau Testament en l'occurrence, mais le Nouveau Testament, c'est une des premières manifestations de cette tradition par laquelle Dieu se livre en se révélant et en nous indiquant un certain nombre de choses qui sont ensuite transmises. Alors, cette activité apostolique se condense par moments à travers des formules de foi dans lesquelles résumer l'essentiel de ce qu'on croit. Nous en avons un premier au Corinthiens, dans lequel elle nous redonne l'oration de l'Eucharistie, la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, etc. Et puis, catéchèse, on transmettait la foi aux époques anciennes, à propos de la résurrection, où il donne une liste de ceux qui ont bénéficié d'une apparition du ressuscité. En se mettant tout à fait à la fin, et moi en dernier, comme un avorton, Jésus m'est apparu. Donc, cette transmission, ce christianisme, ce Christ, un moment dans les formules de foi qui vont devenir les credos, les formes, les professions de foi, nous connaissons les apôtres, credos de Nicée-Constantinople, mais il y en a d'autres qui ont eu lieu et qui à chaque fois essaient donc de nous donner non pas tout, parce qu'on ne peut pas tout dire, pas tout en quelques formules, mais au moins de fixer l'essentiel et d'empêcher le flou et souvent la déformation qui va avec. Donc, cette tradition de l'Église, elle est l'expression même de son apostolicité. C'est parce que l'Église est apostolique, en fait, elle transmet fidèlement ce qu'elle a reçu, tout en ayant l'inventivité de pouvoir trouver la manière de le faire. Et c'est très varié, c'est très, très différent. Et on voit entre les conciles, entre les déclarations des papes, entre la vision des saints aussi, qui font partie de la transmission de l'Église et qui aussi parlent souvent des docteurs de l'Église, par exemple. Eh bien, voilà, on a une forme de cette parole qui traverse l'histoire, qui passe de génération en génération sans déperdition. Alors on dira, oui, mais enfin, y ait beaucoup de changements. Cette continuité, vous parlez, elle n'a pas été sans heurts quand même. Il y a eu des hérésies, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, il y a eu et puis plus précis, plus on parle de Trinité, par exemple. Ils n'employaient pas le mot de Trinité, ils parlaient du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas trouvé le besoin de trouver un mot pour dire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un travail de l'Église qui est. Parce que ce n'est pas une transmission, il s'agit d'aller au-devant des objections, il s'agit de préciser les objectifs, et donc forcément il y a eu la mise en route de tous les moyens dont nous disposions, mais ce qui est notre étonnement et notre admiration, c'est de voir qu'en fait c'est toujours resté dans la même ligne, et que s'il y a eu des précisions qui ont été données, elles étaient déjà incluses dans ce qui était avant. Je voulais un peu terminer ce parcours sur la tradition de l'Église, la tradition apostolique de l'Église, en manifestant que non seulement il y a pu avoir des différences, des variétés, mais pas de variations, justement. Il y a une continuité de fond, et il faut qu'à l'heure actuelle, nous soyons bien conscients de ça, parce qu'on essaie de nous dire, oh ben, un corps vivant, ça évolue, il faudrait que la doctrine de l'Église évolue. Ben, si elle évoluait, ça voudrait dire qu'elle pourrait dire une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne serait pas sûre, et qu'elle ne serait pas fiable. Si nous sommes catholiques, c'est que nous pensons que l'Église n'a jamais erré dans ses positions, et que sur les sujets qui sont évidemment les sujets de fond, pas sur n'importe quoi, mais sur la foi, sur la morale, eh bien que l'Église a une solidité, une constance qui sont admirables. Une constance souple, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout peut s'enfermer dans des formules. Il y a une richesse plus grande encore que ce qu'on peut trouver dans les formules mises par écrit. Mais tout ça reste cohérent, reste en continuité, il n'y a pas d'opposition, on n'avance pas de façon dialectique par une chose et son contraire, on est dans la continuité d'une même parole, comme une mélodie musicale. Il peut y avoir des inflexions, mais la ligne générale reste la même ligne générale, et Dieu continue d'inspirer son Église, et hier comme aujourd'hui. Et s'il y a du nouveau, c'est un enrichissement de ce qu'il y avait déjà. C'est la fécondité incroyable de la parole de Dieu qui donne peut-être de nouveaux aperçus, de nouvelles profondeurs. Il y a des questions qu'on s'était moins posées à certaines époques. On voit que selon les époques, l'Église met le projecteur sur un sujet ou sur un autre. Dans longtemps, ça a été évidemment l'être de Dieu, la nature du Christ. Ensuite, on s'est beaucoup occupé des sacrements au Moyen-Âge et époque moderne, de l'Église, de la société. Donc il y a des faisceaux lumineux différents, mais qui convergent toujours vers le même centre. Donc notre foi, c'est qu'il y a cette continuité vivante, qui n'est pas mécanique, qui n'est pas le fixisme d'un esprit obtus qui répéterait toujours la même chose, mais au contraire quelque chose qui est en continuité vivante. Et là, eh bien, nous saluons l'œuvre du Saint-Esprit qui, tout de façon discrète mais toujours efficace, arrive toujours à harmoniser ce qui était parfois au début des oppositions et à faire que l'Église avance sûre d'elle-même, sûre de ce qu'elle porte, est capable de dire aujourd'hui la parole des apôtres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère, mais s'il y avait des questions, j'y aurais répondu, mais je ne crois pas qu'il y en ait qui soient parvenus. Et la fois prochaine, eh bien, nous continuerons en regardant l'Église sainte, qui est un sujet très, très scabreux aujourd'hui, que nous traiterons à nos prochaines assises. À bientôt.